Décrypte, le podcast de l'actualité numérique en Afrique, avec Adil Abdelali.
Et cette semaine sur CEOMag, nous recevons un jeune entrepreneur marocain. Il est à la tête de Chari, qui est l'une des startups les plus prometteuses dans le secteur du e-commerce en Afrique. Smaïl Belkhiat, bonjour et merci de nous accorder cet entretien.
Bonjour Adil et merci à toi pour l'invitation.
Alors, nous allons tenter de décrypter avec vous les enjeux du développement du commerce électronique sur le continent africain. Il y a d'abord des chiffres que l'on peut analyser peut-être pour initier la discussion. Le nombre d'utilisateurs de plateformes e-commerce en Afrique a progressé de 140% entre 2017 et 2021. Et cette fréquentation devrait grimper encore davantage de 34% entre 2022 et 2025. Quelle lecture faites-vous de ces chiffres ?
Ben, tout d'abord, avant d'être un expert, je suis, comme toi, Adil, un utilisateur du e-commerce qui se rend compte de l'intérêt et de l'utilité de pouvoir se faire livrer à domicile un certain nombre de produits. On le voit particulièrement au Maroc depuis l'arrivée de Glovo, que tout le monde utilise, et on se rend compte, encore une fois, de l'utilité de ces services. Cette utilité a été exacerbée pendant une période particulière qui a été celle du Covid, pendant laquelle, en effet, nos déplacements étaient limités et le e-commerce est venu en sauveur. Il est surtout venu prouver que c'était une solution efficace et il est surtout venu prouver à certaines personnes qui étaient encore sceptiques que le modèle fonctionnait. Donc, si vous voulez, les chiffres que tu viens de partager sont dans la logique des choses. L'Afrique, aujourd'hui, est un continent que nous pouvons appeler suiveur sur certains domaines, innovant dans certains, mais suiveur sur certains. Et donc, le e-commerce est aujourd'hui un modèle qui a fait ses preuves d'abord aux États-Unis, puis en Europe, maintenant dans différents pays en voie de développement, notamment en Amérique du Sud et en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et la logique voudrait qu'aujourd'hui, nos chiffres deviennent ceux d'autres géographies. Je pense qu'on n'est qu'au début de cette croissance et que le meilleur est à venir pour les différents services de e-commerce.
Alors justement, la transition avec ma prochaine question est toute faite. Si on essaie de se projeter à court-moyen terme, est-ce que vous pensez que le secteur du e-commerce africain est toujours aussi attractif pour les investisseurs, qu'ils soient africains ou internationaux d'ailleurs? Et est-ce que surtout la rentabilité des startups spécialisées en e-commerce est toujours au rendez-vous comme c'était le cas au lancement ou au balbutiement de ce segment du e-commerce en Afrique?
Alors, c'est une excellente question, Adil. Il est certain que les modèles de e-commerce ne sont pas forcément les modèles les plus rentables. Tout le monde a en tête Amazon qui a mis quasiment une vingtaine d'années pour rendre son activité e-commerce rentable. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, la vache à lait du groupe Amazon n'est pas son activité e-commerce, mais bien son activité AWS, donc de gestion de hosting et de serveur. Preuve en est, en Afrique, nous avons un exemple qui est donc la première start-up opérant en Afrique à avoir été listée au New York Stock Exchange et qui est notamment Jumia, qui a été à un moment valorisé quasiment 2,5 milliards de dollars, qui a levé au total sur différents rounds de financement quasiment 1 milliard et qui malheureusement aujourd'hui ne se porte pas très bien. Et cela pour différentes raisons. D'abord parce que en effet, le secteur du e-commerce n'est pas forcément rentable, mais surtout parce qu'ils se sont attaqués à plusieurs marchés d'un coup. Et on le sait, c'est un métier qui requiert une certaine profondeur, une certaine compréhension du marché. Et il est souvent préférable de se concentrer sur un seul pays et de bien le faire plutôt que de s'éparpiller sur plusieurs pays. Donc, dans le cas de Jumia, malheureusement, nous sommes face à un exemple qui n'est pas aujourd'hui rentable, mais je peux vous assurer que d'autres exemples dans d'autres pays qui sont souvent des startups d'ailleurs locales qui se sont concentrées sur un seul marché et qui l'ont bien fait ont pu démontrer un véritable fit avec le marché, ce qu'on appelle un product market fit, et des utilisateurs qui sont de plus en plus fidèles et qui rendent les startups en question rentable. Donc, dans l'absolu, ça reste un marché, enfin, en tout cas une industrie qui est moins rentable que d'autres, mais de nombreux acteurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans le e-commerce en Afrique.
Je crois que le constat est clair et l'explication est parfaite. Et en ce qui concerne l'attractivité du secteur e-commerce, est-ce qu'il y a toujours autant d'investissements et d'investisseurs potentiels qu'il y a 3, 4 ou 5 ans?
Alors, bon, de manière générale, on le sait, Adil, on a eu donc le Covid a favorisé l'utilisation de ce genre de service, ce qui a eu comme effet immédiat une sorte d'attrait pour l'ensemble des investisseurs pour ce secteur en particulier. On peut appeler ça une bulle, puisque cette bulle a progressivement dégonflé, voire a explosé. Au début de l'année 2021 avec la guerre en Ukraine, la montée des taux d'intérêt et tout simplement des fonds qui jusque-là allaient vers des startups prometteuses et qui sont allés vers des classes d'actifs un peu moins risquées. Et donc, puisqu'il y a eu assèchement de financement pour le monde des startups, les premiers verticaux, les premières industries à avoir été touchées ont été les industries où les marges sont faibles, et notamment le e-commerce. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusque-là, à l'époque de l'abondance du financement, les secteurs les plus attractifs étaient ceux qui étaient capables de faire les croissances les plus rapides. Je le rappelle, on était à une période où seule la croissance comptait et où l'ensemble des investisseurs ne regardaient qu'une seule chose, qui était le haut du PNL, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Lorsque le financement s'est asséché, ces mêmes investisseurs qui jusque-là regardaient la croissance des startups se sont tout d'un coup retournés vers des métriques ou des indicateurs qui sont un peu plus raisonnables et que sont des indicateurs de profitabilité, et notamment des EBITDA. Et donc, au lieu de regarder le haut de PNL, ils ont commencé à regarder les bas de PNL et notamment les marges. Et on le sait, les métiers de e-commerce sont des métiers de distribution qui, par définition, ont des marges relativement faibles. Et par conséquent, ces mêmes sites de e-commerce qui, en 2017, 2018, jusqu'à 2021, étaient les chouchous des investisseurs, se sont retrouvés en 2022 et en 2023 un peu plus répulsifs et donc ont attiré de moins en moins de financement. Et on l'a vu, c'est la raison pour laquelle des sociétés cotées en bourse comme Jumia ont vu fondre comme neige au soleil leur valorisation.
Et justement, lorsqu'on parle de ce secteur du commerce, on doit bien faire la distinction entre le B2C et le B2B. Bon, Chery est un acteur qui est très actif sur le segment du B2B. Donc, j'aimerais savoir ton avis sur la question de la complémentarité ou pas de ces deux segments. Quel est aujourd'hui le segment le plus prometteur en Afrique? Est-ce qu'ils sont forcément complémentaires ou bien en concurrence?
Alors, non, alors ils sont forcément complémentaires puisque on s'adresse à une typologie de clientèle qui est différente. Lorsqu'on fait du B2B, les clients sont les professionnels et les marchands. Dans le cas de Chéri, ce sont par exemple les petites épiceries de proximité. Et lorsqu'on fait du B2C, on s'adresse principalement au consommateur final. Prenons l'exemple de Jumia encore une fois, qui fait du B2C. Et lorsqu'on analyse aujourd'hui le modèle économique de Jumia, donc qui consiste à acheter des produits et à les revendre, et en utilisant une marge pour notamment couvrir les coûts logistiques, on se rend compte que les coûts logistiques sont très élevés lorsqu'on fait du B2C. Et pour une raison assez simple, c'est que le consommateur final n'est pas toujours chez lui à la maison. Et donc lorsqu'on veut le livrer, eh bien, le taux de réussite d'une livraison est beaucoup plus bas que lorsqu'on fait du B2B. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on livre un point de vente, le point de vente, et on connaît ses horaires d'ouverture, on sait où il est, il ne va pas déménager. Et puis surtout, le donneur d'ordre étant le marchand est souvent beaucoup plus sérieux que le consommateur final. Nous avons tous été consommateurs final qui a commandé sur un site de e-commerce, qui pour différentes raisons n'a pas pu être chez lui au moment de la livraison, ou qui a été chez lui et qui a refusé le paquet parce que le produit ne correspondait pas à nos besoins. Et donc, malheureusement, dans le B2C, le taux de réussite d'une livraison étant beaucoup plus bas, les coûts logistiques sont beaucoup plus élevés et donc forcément, les marges sont faibles. Donc ça, pour moi, c'est la première raison pour laquelle le B2C peine à décoller, enfin, en tout cas, le e-commerce B2C peine à être rentable en Afrique. Mais il y a aussi deux autres raisons. La deuxième raison, c'est tout simplement le fait que faire de l'acquisition client sur du B2C est extrêmement coûteux. Il faut faire du marketing, de la communication digitale et même offline, parce que souvent nos clients ne sont pas forcément en ligne. On l'a vu avec Jumia qui a fait énormément d'efforts marketing. Et donc, le retour sur investissement sur cette acquisition client n'est pas toujours au rendez-vous. Alors que lorsqu'on fait du B2B, ben, faire de l'acquisition client est beaucoup plus simple puisqu'il suffit d'aller rendre visite à ces points de vente qui sont physiques et qui existent pour leur montrer comment fonctionne notre app. Et souvent, ce qu'on appelle la LTV, la lifetime value d'un client, lui permet de rendre son coût d'acquisition rentable. Dans le sens où lorsqu'on acquiert un client, il est souvent fidèle, il recommande à des fréquences élevées. Et enfin, il y a une troisième raison qui est liée au panier moyen. Lorsqu'on est un consommateur final, eh ben notre panier moyen va être relativement faible parce qu'on consomme seulement pour nous. Et donc, le coût logistique ramené au panier moyen est forcément élevé. Et donc, pour ces trois raisons, j'ai envie de dire, le e-commerce B2B a plus de chances de réussir en Afrique que le e-commerce B2C.
Et tout segment confondu, donc B2C et B2B, lorsqu'on s'intéresse au marché africain du e-commerce, d'abord c'est un marché qui est immense, plus d'un milliard de clients potentiels, et ce continent, ce marché se caractérise forcément par des disparités socio-économiques entre les différentes zones ou les différents pays du continent. Quels sont justement pour vous les pays ou les régions les plus propices au développement, à l'avenir du e-commerce et pour quelles raisons surtout?
Merci Adil pour cette question. Alors pour moi, la réussite du e-commerce donc passe par forcément sa rentabilité. Et qui dit rentabilité dit amélioration du succès de la livraison. Et pour qu'il y ait succès de la livraison, pour moi, il y a deux facteurs majeurs. Le premier, c'est la précision des adresses. Donc, plus un pays a, si vous voulez, un fonctionnement postal de qualité, plus les chances de réussite du e-commerce sont élevées. Lorsqu'on a de belles routes bien tracées, qui facilitent la logistique, lorsqu'on a des adresses bien précises avec des noms de rues, des numéros d'appartements et d'immeubles, eh ben, la livraison est beaucoup plus simple. Alors que dans certains pays, on le sait, et c'est notamment des pays où Jumia sont aujourd'hui présents, la livraison devient un véritable cauchemar. Donc pour moi, les pays où ça va le mieux fonctionner, c'est les pays où le fonctionnement postal fonctionne le mieux et a une corrélation évidente. Et enfin, le deuxième sujet, et c'est un peu lié à ta question précédente qui consistait à faire la différence entre le B2B et le B2C en termes de e-commerce. Aujourd'hui, dans le B2B, lorsqu'on livre un marchand, eh bien, la probabilité que ce marchand ait de la trésorerie est relativement élevée. Donc, il est rare de se retrouver à livrer un point de vente qui nous dise: Ah, ben, je suis désolé, je n'ai pas d'argent, est-ce que tu peux revenir? Mais chez le B2C, on se rend compte que souvent, le B2C, d'abord, demande, en tout cas dans les pays africains, demande à payer cash en delivery. Et lorsqu'on le livre, souvent, il n'a pas le cash en question et demande à être relivré à un moment où il aura du cash. Et donc là, si vous voulez, il y a une forte corrélation entre un pays où les paiements digitaux sont évolués et un pays où le e-commerce peut fonctionner. Je m'explique. Souvent, on n'a pas de cash sur soi. Donc, dans les pays où la carte n'est pas très utilisée, eh ben, le taux de succès d'une livraison e-commerce est faible. Pourquoi? Parce que l'utilisateur final n'a pas de cash et demande au livreur de revenir plus tard. Dans les pays où la digitalisation des moyens de paiement est élevée. Là, en l'occurrence, le taux de succès dans la livraison au B2C est élevé. Pourquoi? Parce que quand bien même on rend visite à un utilisateur final qui n'a pas de cash, ben là, il aura toujours une carte ou un wallet et fera le paiement en question, si toutefois il ne l'avait pas déjà fait en ligne. Alors, on le voit en Afrique, c'est le continent dans le monde où le e-commerce progresse grâce à un mode de paiement qui s'appelle le cash on delivery. Alors que dans d'autres pays, le e-commerce progresse grâce au paiement en ligne. Et donc, je pense que l'Afrique continuera à progresser en termes de e-commerce, mais cette progression sera fortement corrélée à la progression de l'Afrique dans ce que moi j'appelle l'inclusion financière, c'est-à-dire la capacité des utilisateurs finaux à pouvoir utiliser des moyens de paiement digitaux pour payer leurs différents biens et services en ligne.
Pour conclure, c'était l'objet de ma dernière question, mais vous y avez déjà répondu, c'est concernant justement les freins au développement du secteur, c'est avant tout la digitalisation des moyens de paiement qui est une condition sine qua non pour le développement du commerce électronique, c'est bien ça.
Tout à fait, tout à fait. On le voit dans. Alors, je vais vous donner quand même quelques chiffres
Oui.
qui vont prouver que tout est possible. Mais on le sait, Jumia Food a malheureusement fermé au Maroc. Et une des raisons de leur fermeture était notamment liée au fait que leurs clients, lorsqu'ils demandaient à être livrés, payaient cash en delivery et souvent ils avaient des problèmes de recouvrement. Et Glovo est arrivé. Glovo est arrivé avec une solution extraordinaire de paiement qu'on appelle dans le jargon des gateways de paiement la tokenisation des cartes. C'est-à-dire que Glovo est arrivé en disant, écoutez, vous n'avez besoin d'entrer votre carte de paiement dans mon application qu'une seule fois. Et à partir de là, à chaque fois que vous commanderez, Glovo s'occupera d'aller puiser dans votre compte de bancaire. Et ça a amélioré ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et autant sur Jumia, il fallait rentrer sa carte à chaque fois, donc les gens préféraient payer en cash. Et souvent, lorsque le livreur arrivait, il se rendait compte qu'il n'avait pas de cash et cela baissait la qualité de service. Autant sur Glovo, la qualité de service est extraordinaire parce qu'on met sa carte une seule fois et ensuite on commande à chaque fois qu'on en a besoin. Et là encore, grâce à cette innovation dans le monde du paiement, qu'on appelle la tokenisation des cartes, on le voit Glovo aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, au Maroc seulement, c'est 60 000 commandes avec un panier moyen de 100 dirhams, ce qui fait 6 millions de dirhams par jour de chiffre d'affaires. Et je peux vous dire que sur les 60 000 commandes, il y en a aujourd'hui 50%, soit 30 000 commandes par jour qui sont payées de manière digitale. Et c'est beau de voir que au Maroc, il est possible de digitaliser la moitié de ses consommateurs, puisque un client sur deux chez Glovo commande en ligne et paye en ligne. Et cela n'a été possible que grâce à des solutions de paiement qui sont innovantes et qui améliorent l'expérience client.
Je crois que nous allons conclure sur ces chiffres effectivement très très révélateurs. Vous avez eu raison de les citer. Merci beaucoup, Ismaël Brriad. Je rappelle que vous êtes le CEO fondateur de Shari. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions sur CEO Mag.
Merci à toi, Adil, pour l'invitation.